Et je n'ai pas une durée, il est enveloppé de sacrement comme ça.
Est-ce que, du côté du suicide, vous pouvez parler du fait que le prêtre, l'unité du prêtre, parce qu'il y a Jésus qui sort, et le prêtre, c'est la vie de la vie.
Est-ce juste de penser cela? Au fond, n'est-ce pas la question dans quel sens se fait la transsubstantiation? Dans quel sens? Non. Du Christ dans le pain? Non, n'est-ce pas? Du pain dans le Christ? De nous dans le Christ? Mais comment? Quel est le lien entre le Christ sur la croix et l'Eucharistie? Le Christ ressuscité et l'Eucharistie? Alors, comprenons, parce qu'il faut voir l'intention. Je crois que c'est l'intention, vous voyez, qui fait qu'on ne voit plus tout à fait. C'est pour ça que j'avais repris exprès le point de vue de la scène, de l'intention qui anime le Christ en instituant l'Eucharistie, et donc ce qui est présent dans le geste du Christ, son intention en réalisant le mystère de l'Eucharistie. Il y a une intention propre du Christ. Le mystère de l'Eucharistie est une surabondance. Donc, comme toute surabondance, il doit se référer à ce qui existe antérieurement, et non pas l'inverse. Ce qui existe antérieurement, c'est le mystère même du Christ dans la gloire. Et la foi dans le Christ dans la gloire suffit. C'est ça qu'il faut toujours comprendre, parce que c'est autrement, on ne voit plus l'ordre de la sagesse de Dieu. Et dès qu'on ne voit plus l'ordre de la sagesse de Dieu, alors vous prenez une coupe et puis vous dites comment revoir. Tandis que si vous regardez le point de vue de l'intention, c'est très différent. Vous pouvez alors reconnaître bien l'ordre qui existe dans ces différents mystères. Le mystère de la foi me lie au Christ dans la gloire. Et le Christ dans la gloire, il m'est donné. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il nous l'a donné à la croix, il nous l'a donné dans la gloire. Le mystère de l'Eucharistie vient comme une surabondance. Permettre au don du Christ de se faire d'une manière plus concrète pour chacun d'entre nous. Puisque nous avons besoin de croître dans l'amour, croître dans l'espérance et dans la foi. C'est pour ça que c'est un mystère d'aliment. Quand on n'a plus besoin de croître, on n'a plus besoin de manger. C'est l'aliment. Donc, c'est nettement dans le mystère de la croissance. Et c'est pour cette croissance que nous est donnée. Donc, comment le Christ présent dans l'Eucharistie est-il le même présent dans la gloire? Parce que, précisément, selon l'intention du Christ, Jésus veut que sa présence de gloire nous soit donnée selon un autre mode, mais c'est le même Christ, substantiellement, et c'est le Concile de Trente le précise, que c'est, il est présent substantiellement. Donc s'il est présent substantiellement, c'est le même, celui de la gloire, qui nous est donné à travers le mystère de l'Eucharistie. Et qui nous est donné à travers le mystère de l'Eucharistie, par surabondance, pour que nous puissions croître dans la foi, l'espérance et l'amour, pour que nous puissions aller plus loin. Donc, comment le Christ présent dans l'Eucharistie est-il le même présent dans la gloire? Tout simplement, à cause de l'intention même du Christ qui se donne. C'est le même don substantiel, mais selon deux modalités différentes. Et cette modalité de l'Eucharistie, c'est ce que nous avions essayé de voir la dernière fois, et c'est là où on va revenir du reste, parce que c'est là où on doit tout le temps revenir. Quelle est cette modalité particulière? Et le sens de cette modalité particulière? On dit sacramentellement. C'est très très bien de mettre une étiquette, c'est indispensable, il le faut. Il faut mettre sacramentellement, le Concile le dit, nous devons le maintenir. Mais il faut essayer d'avoir qu'est-ce que ça veut dire sacramentellement? Que veut dire cette présence de surabondance? Qu'est-ce que ça signifie? Selon l'intention profonde du Christ qui se donne à nous et qui veut se donner en surabondance. Il se donne sacramentellement, c'est-à-dire d'une manière toute relative à la présence de la gloire. Puisque sacramentellement veut indiquer une double relativité dans l'intentionnalité divine. Les sacrements, c'est de l'ordre de l'intentionnalité divine. C'est ça que c'est intéressant, toute l'intentionnalité au niveau philosophique. Parce que ça nous aide à comprendre ce que c'est que les sacrements. Les sacrements, c'est de l'ordre de l'intentionnalité. Je ne peux pas m'y arrêter. Si je coupais les sacrements de la réalité du ciel, je serais dans une perspective théologique, phénoménologique. Vous voyez ? Ce serait l'intentionnalité qui commanderait. Mais l'intentionnalité est toujours relative à autre chose. Et le sacrement étant d'ordre d'intentionnalité divine, eh bien, il est entièrement relatif au mystère de la gloire. Par lui-même, par sa propre structure, il est totalement... Donc comment le Christ présent dans l'Eucharistie est-il le même ? Mais c'est le même parce que le sacrement ne peut pas exister sans la gloire. Il est tout entier orienté vers la gloire. C'est l'intention même du Christ qui réalise la scène. Oui. Donc il faut faire attention de ne pas ajouter un comment qui serait inutile. C'est tout simplement le fait même du sacrement de l'Eucharistie implique cela. Il implique une présence qui est intentionnelle, d'une intentionnalité divine, mais une présence intentionnelle, c'est-à-dire toute relative à la gloire. Je ne m'arrête pas au sacrement. Je ne peux pas m'arrêter au sacrement. S'arrêter au sacrement, ce serait quelque chose de faux. Je m'en sers divinement. Et je m'en sers le plus que je peux. Alors je m'en sers, vous voyez. Et je dirais que ce que l'Église vient de faire pour le sacrement de l'Eucharistie, par exemple, qu'on peut recevoir plusieurs fois dans la journée en assistant à plusieurs messes, montre que l'Église montre que nous sommes dans un temps de grise, nous avons besoin d'un remède. Il le met au carré. C'est vrai, ça. Plus l'Église avance, plus le sacrement de l'Eucharistie est donné. C'est très très curieux, ça. Elle reviendrait sur terre, hein, sans être passé par le ciel. Et quelqu'un qui vivait au XVIIe siècle dirait, mais c'est un abus de la grâce. Communier trois fois par jour. Non, c'est un abus de la grâce. C'est vraiment un abus de la grâce. C'est quelque chose qui va pas. Pas du tout. Tout dépend. Des malades qui ont besoin de prendre des médicaments, tant, s'ils ne sont pas piqués trois fois par jour, ça va plus. Alors c'est nécessaire. Ils sont dans cet état-là de dépendance. C'est une dépendance plus grande que nous ressentons. Et l'Eucharistie est là, donnée pour que nous comprenions notre fragilité et que nous avons besoin de cette nourriture. Donc voyez bien, comment le Christ est-il présent dans l'Eucharistie ? Est-il le même ? Oui, il est le même, parce que la présence de l'Eucharistie est une présence d'intentionnalité divine. Donc c'est une présence qui n'ajoute rien à la présence de gloire, mais qui ajoute pour nous, parce qu'elle nous y conduit, selon un point de vue du signe, et un signe divin qui est efficace. Donc il nous donne cette présence, intentionnellement, mais d'une intentionnalité divine, et donc d'une intentionnalité substantielle. Comment cette présence du Christ à notre foi nous rend-elle présents nous-mêmes dans la gloire, dans la très sainte Trinité ? Parce que cette présence est une présence active. Dès que le Christ est présent, durant la nuit, auprès des apôtres, il touche le bord. C'est dit. C'est merveilleux. Petit signe. Le Christ nous est donné dans l'Eucharistie comme le Christ dans la gloire. C'est le même. Alors le Christ dans la gloire, il est dans la très sainte Trinité. Si le Christ me prend par le sacrement de l'Eucharistie en faisant que ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, je suis par le Christ et dans le Christ, dans la très sainte Trinité. Je touche le bord, le viatique, j'y suis. Au moment où vous recevez l'Eucharistie, vous êtes vraiment, et vous l'êtes toujours mystiquement. Et vous l'êtes selon ce mode de surabondance par l'Eucharistie. Est-ce juste de penser cela ? Donc, est-ce que ce que je dis, je demande ça pour que... répond bien à la question demandée. Je voudrais le savoir. On n'a pas besoin, si ça correspond bien, c'est très bien. Je ne demande pas de dire qui a posé la question. Au fond, n'est-ce pas la question, dans quel sens se fait la transsubstantiation? Très juste, comment se fait la transsubstantiation? Oui, c'est l'intention. Le Christ a une intention. Il fait une œuvre. L'Eucharistie, c'est faire une œuvre, c'est une ergone. Hein. C'est une œuvre, l'Eucharistie. Évident, c'est quelque chose qui vient s'ajouter. Bon. Le Christ, en instituant l'Eucharistie, comme législateur qui institue l'Eucharistie, a une intention particulière. Alors, cette intention, elle va du Christ vers le pain, puisque cette œuvre se sert comme matière. C'est pas une création, hein. Donc, c'est une transsubstantiation. C'est une conversion totale. Donc, on se sert du pain en vue du corps du Christ. Donc, le mouvement, c'est Jésus qui prend le pain dans ses mains avant qu'il soit consacré et le consacre. Donc, quand on dit du Christ dans le pain, je dirais du pain vers le Christ. Mais le Christ enveloppe, donc c'est du Christ vers le pain et du pain vers le Christ. Si je veux avoir le mouvement de la transsubstantiation. Prenez tout simplement le geste. Le Christ a pris du pain et a dit des paroles. Donc, c'est du Christ vers le pain et du pain à la substance du Christ. Donc, ce n'est pas suffisant de dire du Christ dans le pain. Non, c'est du Christ dans le pain et du pain vers le Christ. Vous voyez ? Donc, c'est du pain dans le Christ et de nous dans le Christ. Alors, second aspect. Donc, je suis le mouvement. Revenez toujours au geste. C'est le geste qui nous aide à comprendre l'intentionnalité. Parce que si vous prenez le sacrement séparé du geste, vous ne comprenez plus le sens. C'est pour ça que j'ai repris exprès le point de vue du geste, pour que nous comprenions le sens de ce qu'est la sacramentalité, qui est de l'ordre de l'intentionnalité. Alors nous avons donc, je crois, premièrement le Christ législateur, il prend le pain et il fait une œuvre nouvelle puisqu'il se donne à travers le pain. Il se donne en se servant du pain. Les espèces eucharistiques demeurent, les espèces visibles demeurent, et le don du Christ se fait à travers. Une fois que nous recevons le Christ, nous, puisque le Christ nous est donné comme aliment, il nous est donné comme pain, comme aliment, nous le recevons. Nous le recevons dans la foi. C'est bien évident que seul le croyant peut recevoir le Christ. Dans une foi vivante. Donc c'est le croyant qui reçoit cet aliment, et en recevant cet aliment, c'est le Christ qui nous transforme en lui. Donc le Christ se donne comme aliment pour nous transformer en lui. Vous avez le mouvement, et ici il est mis du pain dans le Christ, de nous dans le Christ. Alors vous voyez, faites un peu plus que ça. Parce qu'il faut avoir le mouvement complet. Il faut dire, le Christ nous est donné à travers les espèces eucharistiques, donc il nous est donné comme aliment, et cet aliment étant un aliment divin, c'est cet aliment qui nous transforme en lui. Nous sommes assimilés divinement au Christ. Comme lorsque je mange un morceau de pain, je le transforme en moi, et le pain est transformé en ma propre substance, de même, dans le sacrement de l'Eucharistie, le signe, le symbole, c'est l'aliment, pour me faire comprendre que le Christ me transforme en lui, dans une unité substantielle de vie. C'est en ce sens-là que l'aliment me montre l'action du Christ en moi. C'est suffisant comme explication ? Bon. Alors, deux autres petites passages. L'Eucharistie est le don substantiel du Christ. Vous voyez que ce n'est pas suffisant de dire l'Eucharistie est le don substantiel du Christ. Je dirais l'Eucharistie est le don substantiel du Christ sous les apparences du pain. C'est le don du Christ sacramentellement donné. Est-elle alors liée nécessairement à une mission divine ? Alors là, on retrouve le point de vue des missions. Comprenez bien, les sacrements ne sont pas une mission. La mission, c'est proprement Dieu qui se donne. La mission est au niveau mystique, pas au niveau sacramentel. Ça, c'est sûr. La mission, c'est au niveau mystique. Quand je dis mystique, vous voyez, je veux dire la présence du Christ qui nous est communiqué divinement dans la foi, l'espérance et l'amour. D'une façon cachée. Qui dit mystique dit caché. Dit sacramentel dit visible. Vous voyez la différence, j'espère. Alors on ne pouvait pas dire que le sacrement c'est une mission visible. Non. On ne pouvait pas dire que le sacrement est une mission visible. C'est quelque chose d'autre. C'est autre chose que les missions. Il faut bien comprendre. Les sacrements sont quelque chose d'autre que les missions. Les sacrements donnent la structure de l'Église. L'Église de la terre implique la sacramentalité. La sacramentalité, les sacrements nous sont donnés pour augmenter notre vie divine. C'est pour ça que les sacrements sont donnés. Parce que nous sommes des pèlerins et que nous avons besoin d'être fortifiés dans les luttes. Dans les luttes que nous subissons. C'est l'Église militante. C'est parce que nous avons besoin d'être fortifiés que les sacrements nous sont donnés. Les sacrements, donc, normalement, augmentent notre charité. Si les sacrements augmentent la charité, tout accroissement de charité implique-t-il une mission ? C'est toute la question. Si l'augmentation de toute charité implique une mission invisible de l'Esprit-Saint, je peux dire qu'à travers l'Eucharistie et par l'Eucharistie, il y a augmentation de charité, normalement. Vous devriez croître en la vie divine après chaque communion. C'est vrai. C'est donné pour ça. Alors, vous savez ce que dit saint Thomas. Il dit, après chaque petit pain, vous n'augmentez pas. Il faut une série de petits pains pour augmenter, tout d'un coup. C'est vrai, la croissance. C'est bien ça, la croissance. Alors faisons attention, c'est la croissance biologique se fait selon un certain rythme, n'est-ce pas ? Et puis au bout d'un certain temps, on ne grandit plus. On ne prend plus assez de soupe. On ne grandit plus, n'est-ce pas ? Alors vous ne grandissez plus parce que vous êtes sur un haut plateau et vous attendez de dégringoler. Tout simplement. Mais vous n'augmentez plus. Alors donc faisons attention avec l'analogie biologique. Elle est vraie et elle n'est pas vraie. De sorte que la croissance de la charité est différente de la croissance biologique. Puisque la croissance de charité doit se faire tout le temps. Elle doit se faire selon un rythme beaucoup plus accéléré. De sorte que je pourrais dire que normalement chaque communion devrait augmenter ma charité. Et donc chaque communion devrait apporter une mission. On dit qu'entre Dieu et l'homme, la relation n'est pas réelle. Mais deux raisons, ça c'est différent, enfin, ça c'est par rapport à la création. Par l'Eucharistie, Dieu se rend présent à nous d'une manière substantielle. Peut-on alors parler d'une relation réelle ? La présence de grâce est-elle une relation réelle entre Dieu et l'homme ? Bon, ça c'est très bien. J'ai saisi. Prenons la relation réelle et la relation de raison. Ceci se pose à propos de la création. Donc là encore, ne mêlons pas les niveaux. Au niveau de la création, c'est sûr que nous disons que la créature est réellement dépendante de Dieu selon une relation réelle qui se fonde sur laisser participer. Donc la créature comme créature est réellement dépendante de Dieu dans une relation de dépendance. Tandis que Dieu est dénommé créateur par l'acte de dépendance dans lequel je suis. Mais il n'y a rien qui s'ajoute à Dieu. Quand Dieu crée, il n'y a rien qui s'ajoute à Dieu. Même pas une relation. Dieu a beaucoup d'enfants, de multiples enfants, et donc il y a des relations multiples, vous voyez, un fil chaque fois. Hein. Alors, vous voyez, depuis le nombre de créatures, il y a des fils en quantité, n'est-ce pas ? Le cordon ombilical vis-à-vis de Dieu demeure éternellement, n'est-ce pas ? Alors, on est relié éternellement à Dieu, n'est-ce pas ? Eh bien, non, ça, c'est une vision purement imaginative. Purement imaginative. On n'ajoute rien à Dieu. C'est nous qui recevons gratuitement et qui sommes relatifs à Dieu. Au point de vue de la création. Au point de vue de l'ordre surnaturel, que nous touchions ce matin, dans l'ordre surnaturel, un instrument peut avoir lieu. Dans l'ordre surnaturel, est-ce que le don de la grâce ajoute quelque chose à Dieu ? Le don de la grâce, je peux le considérer de deux manières. Et c'est ça le point. Le don de la grâce, je peux le considérer de deux manières. Je peux le considérer entitativement. La grâce est quelque chose de créé dans mon âme. Si la grâce est quelque chose de créé dans mon âme, la grâce me transforme en tant que créature, puisqu'elle s'ajoute. Mais en tant qu'elle est créée, elle n'ajoute rien à Dieu. Mais la grâce prise formellement, qu'est-ce que c'est ? C'est de pouvoir rejoindre le regard de Dieu sur moi. C'est que Dieu m'est présent et je suis présent à Dieu. Donc, il y a du côté formel de la grâce, il y a du côté vital de la grâce, il y a cette chose très particulière, c'est qu'il y a une relation entre moi et Dieu. En tant que je suis transformé par la grâce, je suis relatif à Dieu. Et donc je peux me mettre face à Dieu, en sa présence. Et je me mets en sa présence. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de changé du côté de Dieu, puisque Dieu me regarde toujours. Dieu m'est toujours présent. C'est moi qui ne suis pas toujours présent à Dieu. Et la grâce me permet de prendre conscience de cette présence. Et la grâce me permet de m'éveiller vis-à-vis de Dieu. Et de faire qu'il y a un face-à-face. Dans l'obscurité de la foi, il y a un face-à-face. C'est moi qui suis transformé qui permet ça. Voilà le mystère de la grâce. Par l'Eucharistie, Dieu se rend présent à nous d'une manière substantielle. Dieu est présent à travers les espèces eucharistiques, à travers, par la transsubstantiation, Dieu est présent à travers les espèces eucharistiques. Est-ce que le Christ est changé ? C'est le Christ, pas le Verbe de Dieu. Est-ce que le Christ est changé au moment de la transsubstantiation ? Le Christ est dans la gloire. Le Christ qui a institué l'Eucharistie, on l'a dit, le Christ dans la gloire. Le Christ glorifié. C'est le même substantiellement. Et je dis, nous sommes ici dans l'ordre d'une intentionnalité divine. Et je crois que c'est ça qui doit nous aider. On ne développe pas beaucoup d'habitudes. Les théologiens ne développent pas beaucoup, parce qu'ils ne savent pas très bien philosophiquement ce que c'est que l'intentionnalité. Alors ils ne développent pas. Mais si vous savez ce que c'est que l'intentionnalité au point de vue philosophique, ça aide énormément à comprendre ça. C'est une analogie merveilleuse, qui nous aide énormément à comprendre. Parce que le concept va-t-il modifier l'objet ? Quand vous connaissez quelque chose, quand vous voyez quelque chose, vous êtes modifié, mais est-ce que l'objet que vous voyez est modifié ? Il n'est pas modifié. L'intentionnalité n'est que dans un sens. Mais sauf si vous avez le mauvais œil. Hein. Alors, je t'ai vu. C'est bien, c'est, je te vois, je te regarde. Ça ne me change pas que vous me regardiez ou vous ne me regardiez pas. Oui, ça m'intéresse beaucoup au point de vue enseignement, de voir si vous suivez ou vous ne suivez pas. Mais autrement, ça ne me change absolument rien. Que vous me regardez. Ah, je peux rougir, ça c'est différent. Je peux en rougir que vous me regardiez. Mais ça, c'est parce que on est sensible à ça. N'est-ce pas ? Autrement, ça ne me change pas. Normalement, quelqu'un me regarde pas. Ça ne me modifie pas. Et moi, je suis modifié. Parce que quand je connais la rose, je suis modifié par la rose. Et la rose n'est pas modifiée par mon regard. Si les sacrements sont de l'ordre de l'intentionnalité, ce que je crois qu'on doit essayer de comprendre, voyez, juste le pain est transformé, ce n'est plus du pain. Il n'y a plus que les apparences. La transgression, c'est ça. Est-ce que la transgression va modifier le Christ dans sa gloire? Et vous voyez, le problème est différent parce que Dieu étant Dieu, il n'est pas modifié par la nature. Ici, il s'agit du corps du Christ. Alors, le corps du Christ, il est quelque chose de créé. On peut ajouter quelque chose au corps du Christ. Est-ce que le corps du Christ est modifié par la transsubstantiation? C'est la question posée, oui. Par l'Eucharistie, Dieu se rend présent à nous, je dirais le Christ se rend présent à nous, d'une manière substantielle, c'est le corps du Christ qui se rend présent à nous. Peut-il y alors parler d'une relation réelle avec le corps du Christ? Le corps du Christ est nouvellement présent. C'est le corps du Christ. Et par le corps du Christ, la divinité. La divinité n'est pas changée, ça c'est bien évident, le problème ne se pose pas. Mais c'est la question du corps du Christ. Est-ce que le corps du Christ est modifié? Il faut au moins se poser la question. Est-ce que le corps du Christ est modifié par la consécration? Ou est-ce que le corps du Christ n'est pas modifié? Alors ici, vous voyez, si l'analogie de l'intentionnalité est juste, même si c'est une intentionnalité divine, le corps du Christ n'est pas changé. Le corps du Christ glorifié n'est pas changé. Il est dénommé présent, mais il n'est pas changé. C'est le pain qui est changé. Alors, je pourrais mieux préciser encore en disant que le corps du Christ a un existé divin. C'est l'existé du Verbe. Un existé divin. Cet existé divin ne peut pas changer. Donc le corps du Christ n'est pas modifié. Mais il y a deux raisons qui me permettent de dire ça. Une raison proprement de l'affirmation de foi de l'existé du Verbe de Dieu, l'existé du Christ glorifié, c'est l'existé du Verbe de Dieu, puisque le Christ subsiste dans le Verbe. Donc il existe dans le Verbe. C'est l'existé éternel du Verbe. Il existe dans le Verbe. Et en tant qu'il existe dans le Verbe, il est immuable. Dans sa gloire. Sur la terre, il pouvait changer. Et de fait, il changeait selon une intention de la providence divine. Mais dans la gloire, il ne peut plus changer. Alors vous allez me dire, mais les pleurs dans les apparitions, quand on voit Jésus pleurer à cause des péchés. Alors est-ce que le corps du Christ peut être affecté par ce qui se passe ici sur la terre? Il nous voit, il nous aime, il est le bon pasteur qui connaît ses brebis. Et il est le bon pasteur qui est toujours présent, puisque le prêtre, quand il consacre in persona Christi. Donc s'il consacre in persona Christi, il consacre à la place du Christ. Étant saisi par le Christ. Et il consacre, en prononçant lui-même les paroles, mais c'est le Christ qui agit à travers lui. Et qui fait le mystère de transsubstantiation. Le pain est changé dans le corps du Christ. Et c'est le Christ qui est présent substantiellement, le corps du Christ. Mais le Christ dans sa gloire n'est pas changé. Il est dénommé relatif, une dénomination extrinsèque. Je ne crois pas du tout qu'on puisse dire une relation réelle. La relation réelle, elle est du côté du pain consacré, qui fait qu'il n'y a plus la substance du pain et il y a la présence du corps du Christ. Et je mettrai deux raisons pour cela. Première raison, à cause de l'existé éternel du Christ, dans la gloire, il n'est plus passible. Première raison. Deuxième raison, le point de vue de l'intentionnalité. Le sacrement, c'est dans l'ordre de l'intentionnalité. Nous allons y revenir là-dessus, parce que ça, je crois que c'est très important de saisir bien ce point de vue théologique, qu'on n'a pas beaucoup développé, du moins, je n'ai pas vu beaucoup développé. C'est possible qu'on l'ait développé ces dernières années. Mais au fond, ce n'est pas très développé, ce point de vue-là. Alors, il me semble que c'est de ce côté-là qu'on devrait le développer, pour essayer de comprendre, justement, comment on est dans une intentionnalité divine qui fait que le côté du pain est changé, est modifié, exactement comme pour l'intentionnalité au niveau de la connaissance et au niveau de l'amour, mais l'objet réel n'est pas changé. La présence de grâce est-elle une relation réelle entre Dieu et l'homme? La présence de grâce, j'ai dit tout à l'heure, c'est au point de vue de la vie. Puisque Jésus me regarde, puisque Jésus me voit, puisque Jésus me connaît, il y a une relation réelle avec le Christ. Cette relation du Christ, elle est réelle, puisque c'est lui-même qui me communique son amour. Et en me communiquant son amour, il veut qu'il y ait cette relation réelle avec lui. Oui. Dans le don de lui-même. Oui, dites.
Le corps du Christ, lorsqu'il était sur terre, dans ce monde, il était
limité
par l'existence du Verbe éternel. Oui. Alors pourquoi la raison ne
peut-elle oui, mais c'est pas juste
le corps du Christ
Vous savez ce que dit saint Thomas, que normalement le corps du Christ aurait dû tout de suite être glorifié. Et que selon, et ça c'est le Père de l'Église, selon une providence, une économie divine, le corps du Christ a grandi, il était passif, vous voyez. Or, ceci, c'était en vue du mystère de la rédemption. Le mystère de la rédemption ayant eu lieu, on est dans la gloire. Et à ce moment-là, le corps du Christ participe cet essai divin, il vit cet essai divin, il exige cet essai divin, et donc, il est au-delà de la manifestation. Vous voyez, c'est en raison même de cette économie divine. Hein. Dieu a voulu suspendre, en quelque sorte, le privilège du corps du Christ subsistant dans le Verbe et donc existant de cet existé divin qui fait qu'il est au-delà normalement de la corruptibilité et du changement. Oui. C'est en raison d'une économie divine en vue du mystère de la finalité pourquoi l'incarnation. Alors je crois que cette raison-là. Et la seconde, c'est la raison de l'intentionnalité. Moi, je mettrai les deux. Vous voyez ? Pour essayer de préciser, hein, dans la mesure où on peut. Il faut y réfléchir, hein, parce que c'est des domaines délicats, difficiles à préciser et importants, parce que ce sont des questions qu'on peut se poser, ces questions-là, et qui sont importantes pour essayer de mieux préciser toujours quelle est cette présence de Jésus dans l'Eucharistie. Que représente exactement cette présence de Jésus dans l'Eucharistie? C'est une présence d'un mode unique. Donc toutes les comparaisons qu'on prendra seront analogiques, c'est-à-dire boiteront. Elles ne seront jamais adéquates. C'est sola fide. La foi seule qui me permet d'affirmer cela, mais j'essaie, et on doit essayer, de préciser le mieux qu'on peut. Oui. Ce mode particulier de la présence de Jésus dans l'Eucharistie, qui est un mode sacramentel. Alors, je reviens à ce que je disais la fois dernière, ou je continue, si vous voulez, pour essayer de ce mode sacramentel. Il faut essayer de préciser ce qu'est ce mode sacramentel. Le théologien doit préciser cela. Il doit préciser que ce mode sacramentel, c'est un mode qui implique donc une double relation. Et je crois que c'est ça qu'on doit essayer de saisir. La double relation, la relation du symbole à la réalité signifiée et la relation de la cause instrumentale à la cause principale. Et ces deux relations vont s'entrechoquer, si vous voulez, ou bien vont s'unir profondément l'une l'autre. C'est que l'instrumentalité est commandée par le point de vue du signe. C'est le signe qui commande l'instrumentalité, non pas l'inverse. Que c'est important de comprendre ça. C'est l'instrumentalité qui commande le. Alors, vous allez me dire pourquoi. Pourquoi c'est le signe et non pas l'instrumentalité. C'est parce que le sacrement est avant tout visible. Et donc, c'est en premier lieu le signe. Il peut y avoir des sacrements qui ne sont que des signes dans l'Ancien Testament. Le sacrement était un signe sans causer la grâce. Et c'était sacrement. Donc, la première réalité profonde du sacrement, c'est de signifier quelque chose de sacré, de signifier quelque chose de mystérieux. Alors, le signe Et donc la première relation, si j'essaie de comprendre cette modalité particulière de la sacramentalité, qu'est-ce que c'est que le sacrement? Qu'est-ce que c'est que la présence du Christ qui est une présence sacramentelle? Alors, j'essaie de saisir le symbole. Le sacrement implique symbole, implique instrument. Le symbole est relatif à la réalité signifiée, à la res. Et l'instrument est relatif à la cause principale. Donc, vous voyez, il y a une double dépendance. C'est pour ça que je dis qu'il y a une double intentionnalité. Si j'essaie de comprendre ce que c'est que l'intentionnalité au plan philosophique, hein, j'emploie exprès ce terme d'intentionnalité. L'intentionnalité, c'est quelque chose qu'on a inventé au point de vue philosophique pour essayer de comprendre la dépendance radicale, la dépendance essentielle d'une réalité à l'égard d'une autre réalité. C'est toujours distinct de l'ordre substantiel des choses. Je vous ai, je crois, déjà, au point de vue philosophique, montré ce que c'est que l'intentionnalité. Je ne vais pas y revenir tout le temps, parce que c'est... Mais c'est très important de creuser ce que c'est que l'intentionnalité, comment on a dû inventer le domaine de l'intentionnalité. C'est à partir de la distinction de l'être et de la vie. Parce que le germe contient virtuellement la réalité qui va provenir de ce germe. Du gland, le gland contient virtuellement le chêne. Le grain de blé contient virtuellement les autres grains de blé. Et la tige même du blé qui va produire cela. Alors c'est ce virtuellement qui est intentionnel. C'est toujours mystérieux, hein, parce que vous n'arrivez pas à le comprendre. Mais il y a un petit quelque chose qu'on doit essayer de saisir. C'est ce passage, vous voyez, du domaine de la vie au domaine de l'être. Et tous les degrés de vie ont un domaine d'intentionnalité. L'intentionnalité au niveau vie végétative, le grain, la semence, qui contient tout ce qui va provenir de la semence, au niveau proprement connaissance sensible, ou affectivité sensible, les passions. Quand je connais quelque chose, je deviens cette réalité, intentionnellement. Je suis modifié par cette chose, et cette chose est présente intentionnellement. Et puis alors, au degré spirituel. Il y avait donc trois niveaux d'intentionnalité. Une intentionnalité au niveau végétatif, au niveau sensible et au niveau spirituel. Alors vous voyez tous les réseaux d'intentionnalité. C'est quelque chose d'extraordinaire si on essaie de comprendre un tout petit peu. On est enveloppé de l'intentionnalité. Un être vivant, il est enveloppé d'intentionnalité. Ce qui permet de comprendre le dépassement. Je suis capable de projeter quelque chose. Et ce projet que j'ai n'est pas rien du tout. Il est d'ordre intentionnel, il n'est pas encore réalisé, mais il est d'ordre intentionnel, mais c'est ce qui m'anime. Quand j'ai un grand désir, et un être abattu, un être qui est replié sur lui-même, c'est parce que justement, l'intentionnalité n'est plus là. Nous vivons d'intentionnalité. C'est l'homme qui se dépasse lui-même. C'est le dépassement de l'homme qui se fait toujours par l'intentionnalité. C'est nous projetons quelque chose. C'est un ressort qui nous permet, quand le ressort est cassé, c'est ce que ça veut dire. On n'arrive plus. C'est très mystérieux. Alors, c'est quelque chose de second, c'est bien évident, ce n'est pas la réalité. L'idéalisme serait de confondre l'intentionnalité et l'être. Je crois que c'est l'erreur fondamentale de tout l'idéalisme, en dernier lieu. De confondre les deux. L'idéalisme ou le matérialisme, parce que là, on trouverait la même erreur. De confondre les deux. De ne considérer comme réel que le réel que je peux mesurer. Vous ne pouvez pas mesurer l'intentionnalité. Jamais. Vous ne pouvez pas mesurer vos concepts. Hein. Allez-y. Mesurer vos intentions morales. Impossible. Vous mesurez les résultats. Oui. Donc c'est pour ça qu'un esprit positiviste supprime l'intentionnalité. La sensibilité, c'est quelque chose qui n'est pas mesurable. On est obligé de reconnaître que... Vous savez bien, la médecine, au début, regardait très fort uniquement les résultats. Puis on est obligé de reconnaître que le moral joue un rôle très important. Et le moral peut faire que quelqu'un qui a un bon moral, c'est-à-dire des intentionnalités fortes. C'est ça que ça veut dire, un bon moral. Des intentionnalités fortes, c'est-à-dire celui en qui l'aspect virtuel de la fin est déjà présent. Et dans la mesure où il a justement des intentionnalités fortes, il peut alors dépasser des quantités de lutte. Il est capable de lutter. Celui qui n'a plus ses intentionnalités, réfléchissons tout simplement sur nos états psychiques. Et l'état psychique, c'est tout simplement ces niveaux-là. Faut comprendre, quand l'intentionnalité vis-à-vis d'une finalité est supprimée, le ressort est cassé. On n'a plus de envie. On n'a plus d'appétit. C'est mystérieux d'avoir de l'appétit ou pas d'appétit hein, au niveau biologique. C'est très très mystérieux. Eh bien, il y a des appétits sensibles, des appétits spirituels. Il y a des gens qui ont un grand appétit spirituel. Et alors ceux-là se dépassent. Ceux-là font des progrès. Ils vont plus loin. Quand le ressort est cassé, on se replie sur soi. Et alors on se dégrade. Parce qu'un être vivant est toujours fait pour aller plus loin. Alors, l'intentionnalité, c'est mystérieux. C'est très très mystérieux ça. Et c'est une des choses les plus importantes. Or, je crois que nous pouvons dire que nous sommes en face ici d'une double intentionnalité. Une intentionnalité au niveau de la signification et une intentionnalité au niveau de l'efficacité. L'intentionnalité au niveau des significations, le symbole, le signe, signifie la réalité. Puis, au niveau de l'efficacité, parce que l'instrument va être ce qui va causer au nom de la cause principale. La virtus. La virtus. La virtus, c'est de l'ordre de l'efficacité. Alors, vous avez ces deux intentionnalités qui sont, non pas parallèles, mais subordonnées. Celle-ci est première, celle-ci est seconde. Donc l'instrumentalité va se réaliser dans le sens même du signe. Les sacrements vont réaliser ce qu'ils signifient. C'est ce qu'on dit quand on dit les sacrements réalisent ce qu'ils signifient. C'est tout simplement montrer que l'intentionnalité instrumentale de l'efficacité est enveloppée de l'intentionnalité symbolique. Elle est dedans, elle est incluse dedans. Dieu seul peut réaliser ça. Moi, je ne peux pas réaliser ça. Les hommes voudraient bien avec la magie. C'est ça qu'on a toujours le parallélisme entre la magie et les sacrements. Non, mais ce n'est pas du tout la même chose. Il faut bien reconnaître. Mais c'est vrai que la magie a quelque chose d'intentionnalité. Vous savez bien, quand vous agissez sur une petite poupée pour essayer de l'enfoncer en clou sur le crâne de la poupée, puis la pauvre personne après reçoit des coups et des secousses dans sa tête, hein, la magie noire, hein, c'est pas drôle ça. Alors il y a l'intentionnalité, le symbolisme qui est efficace. Le démon peut arriver à faire des choses comme ça. C'est ça qu'on dit que c'est démoniaque. Normalement, l'homme ne peut pas. Normalement, je peux donner des signes, mais mes signes ne sont pas efficaces. Je dis, allez, sors de là, hein, très bien, puis l'autre ne veut pas, il ne sort pas, simplement. Parce que c'est pas efficace, dans le sens profond. La ligne du symbolisme n'assume pas la ligne de l'instrumentalité. Le démon peut faire une espèce d'anti-sacrement. C'est tout à fait normal, hein, ça. Et donc d'inventer des choses magiques qui sont anti-sacrement. Mais c'est pas. Alors, quelle différence y a-t-il ? C'est que ici, c'est substantiel. C'est une intentionnalité substantielle. C'est ça qui est très étonnant et qui est unique. C'est une intentionnalité substantielle. Pourquoi ? Parce que la res signifiée, hein, la res signifiée, c'est le corps du Christ, donné comme aliment. C'est le pain de vie. Donc, c'est le corps du Christ. Réalité substantielle, c'est la substance. Et l'instrumentalité va, elle, être substantielle. Il est présent par mode substantiel. Donc c'est vraiment une intentionnalité qui touche la réalité dans ce qu'elle est plus profond. Dans l'ordre substantiel. Ça, alors là, vraiment, Dieu seul peut le faire. Tandis qu'au contraire, l'intentionnalité de la magie, c'est toujours par mode artistique. Donc ça ajoute sur une forme, sur quelque chose, ça peut bouleverser l'ordre des choses, mais c'est jamais substantiel. Tandis que là, c'est substantiel. Encore une fois, c'est pour ça que l'Église maintient le mot transsubstantiation. Pour bien montrer que, de fait, le symbolisme et l'efficacité sont quelque chose de substantiel. Ça joue sur le corps du Christ. Donc vous avez cette chose très particulière, et c'est toujours comme ça au point de vue théologique. Hein. Il y a deux analogies qui, humainement parlant, sont en opposition. Au point de vue philosophique, l'intentionnalité se distingue du caractère substantiel. Qui dit intentionnalité dit ordre second vers quelque chose de premier. Qui dit substance dit ordre premier. Donc l'intentionnalité et la substance sont normalement séparées, deux choses distinctes. Ici, à cause de la foi et dans le mystère de la foi, je peux me servir de l'intentionnalité et dire une intentionnalité substantielle. J'unis deux choses qui, normalement, ne peuvent pas être unies. Et c'est vrai, c'est une intentionnalité, mais une intentionnalité substantielle, et c'est le caractère propre des sacrements. Parce qu'il touche à un ordre qui est divin. Or, en Dieu, il n'y a pas d'intentionnalité. Tout est substantiel. Ce qui dit divin dit substantiel, et mais qui dit quelque chose que Dieu a réalisé, a inventé pour nous comme un moyen, peut-être une intentionnalité. Tout ordre du moyen peut-être.